Alors, en ces temps de Noël, où selon une tradition probablement fausse, nous fêtons la venue de Jésus, je dis probablement fausse parce que Jésus est probablement né en été. Mais bon, au IVe siècle, on a fixé un peu arbitrairement la naissance de Jésus au 25 décembre. Donc, de toute façon, ce qui est important, c'est de s'en souvenir. Eh bien, je vous propose, en fêtant cette venue, de voir Jésus à travers le regard de sa mère. Et pour cela, je vais vous proposer de lire les textes qui nous parlent de cela. Et il peut être utile quand même que vous preniez vos Bibles, parce qu'on va lire plus de textes que ce que je ne vais vous raconter de choses. Ce qui est peut-être le critère d'une bonne prédication. Donc je vous propose dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, au verset 26 et 35, à 35, si vous voulez des Bibles, il y en a là-bas au fond, et les Bibles blanches, c'est la page 660. Au sixième mois, c'est le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth dont il est question là. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de cette vierge était Marie. Il entra chez elle et y dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. On peut se demander ce qu'a éprouvé Marie lors de cette annonce. Cette annonciation, comme on dit maintenant. D'abord, la perplexité. Le texte nous dit « troublé par cette parole ». Et puis de l'incompréhension. Comment est-ce que ça va se réaliser? Alors l'ange lui donne des explications et nous avons au verset 38 la réponse de Marie. Alors, Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse sur moi. » Et l'ange la quitta. Perplexe, se posant des questions, mais confiante. Confiante dans le Seigneur et disponible pour l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui va bouleverser sa vie. Imaginez-vous, elle est fiancée. Qu'est-ce qu'il va dire le fiancé? Que vont dire les gens du village? Qu'est-ce qu'elle risque, Marie? Elle risque sa vie. Vous vous souvenez, quand Jésus est appelé pour une femme adultère, on est en train de la lapider. Enfin, on souhaite la lapider. C'est ce qui peut arriver à Marie. Mais elle est confiante. Je suis la servante du Seigneur. Et puis ensuite, elle a sûrement réfléchi, Marie. Et surtout, elle s'est documentée. C'est-à-dire qu'elle a lu les écrits des prophètes. Et elle a réalisé que le prophète Ésaïe avait prédit 800 ans avant qu'un enfant roi naîtrait d'une vierge. Et elle a compris qu'elle était un maillon important pour l'accomplissement de la plus grande des prophéties, la venue du Messie. Apparemment, sa cousine Élisabeth, qui était enceinte dans sa vieillesse, « Mesdames, si vous avez atteint un âge un peu élevé, ne perdez pas courage. Donc, Élisabeth, elle avait réfléchi elle aussi, et le Saint-Esprit l'a aidée. Alors, nous assistons à l'entrevue des deux cousines, la visite à Élisabeth, que je vous invite à lire, toujours dans Luc 1er, à partir du verset 41. Et chose merveilleuse, on est toujours à la page 660. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant c'est le futur Jean-Baptiste, hein? Elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie, plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir ? Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. » Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, a compris que Marie portait l'enfant, le fils de son Seigneur. Elle portait son Seigneur en elle. Et puis elle a aussi constaté la foi de Marie, toi qui as cru. Et Marie va lui répondre le texte qu'on appelle le Magnificat. Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. Car désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. Il est intervenu de toute sa puissance. Il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés. Et il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. » Quand je vous disais que Marie s'était documentée, qu'elle avait lu les prophètes, elle restitue là ce qu'elle a lu. Parce qu'évidemment, pour l'instant, son bébé n'a rien fait, puisqu'il n'est pas encore né. Mais elle répète, elle redit ce qu'elle a trouvé chez les prophètes sur ce que va faire cet enfant. Et elle chante les louanges de Dieu, elle chante sa grandeur, et en même temps elle reconnaît sa petitesse. Et elle sait aussi combien elle est grande dans le regard du Seigneur, combien l'amour et l'attention du Seigneur l'honorent. Et puis, on va continuer, parce qu'après le chapitre 1er, il y a le chapitre 2. qui nous raconte d'abord la naissance de Jésus, et puis à partir du verset 8, il nous parle des bergers. Il y avait dans cette même contrée, c'est-à-dire autour de Bethléem, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et qui disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie apprend par le témoignage des autres des vérités qui concernent son propre fils. J'ai eu envie, mais je n'ai pas osé, de vous montrer un dessin de Marie qui repassait ces choses dans son cœur. C'est une image, bien sûr, mais une image de Marie à qui une foule d'informations arrive et qui ne peut pas les digérer toutes, mais qui les garde dans sa tête, qui les garde dans son cœur et qui y repense et qui va ruminer, méditer ça. Je vous propose de nous arrêter un peu et de voir en Marie les qualités que doit avoir tout chrétien, tout enfant de Dieu. Il est normal que chaque chrétien soit parfois dans la perplexité, dans l'incompréhension. Comment pouvons-nous comprendre et accepter les souffrances du monde qui nous entoure? Comment savons-nous ce que Dieu va faire de nous demain? Nous n'en savons rien. Nous ne savons pas ce que demain, de quoi demain sera fait. Et c'est l'interrogation permanente de tous les chrétiens. Comme Marie, nous interrogeons le Seigneur. Seigneur, que veux-tu de moi? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment ça va se passer? Mais en même temps, nous sommes confiants dans le Seigneur. Nous n'avons pas les réponses à toutes nos questions, mais lui, il a les solutions. Il a la solution au problème, la sagesse pour décider, la puissance pour exécuter, l'amour pour nous garder. Et puis ces questions n'empêchent pas que nous devons nous mettre à disposition. Seigneur, je suis ton serviteur. Agis pour moi selon ta volonté. Je veux être disponible pour toi. Car nous sommes à la fois les bénéficiaires de l'œuvre du Seigneur et aussi des ouvriers pour son œuvre, pour qu'elle touche d'autres personnes. Vous avez vu que Marie, elle a conscience de sa propre valeur. Elle est l'humble servante que toutes les générations diront bienheureuse. Nous sommes, nous aussi, de humbles personnes. Nous n'avons aucune qualité en nous-mêmes. Nous n'avons pas de valeur par rapport à notre Dieu. Et pourtant, notre valeur vient du regard d'amour de notre Dieu. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu a donné son Fils pour nous. Notre Dieu a de grands projets, des projets éternels pour nous. Voilà ce qui nous donne notre valeur. Les chrétiens se mettent à la place que Dieu leur confie. Marie, elle sait qu'elle est à sa place. Je suis la servante du Seigneur. Et nous, le Seigneur nous désigne aussi des places. Je travaille pour cette Église, là où il m'a placé, même si elle est imparfaite, même si je suis imparfait. Même si cette œuvre n'est pas accomplie à la perfection, c'est ce que le Seigneur m'a désigné. C'est ce que chacun de nous pouvons dire. C'est valable pour notre place dans l'Église, c'est valable pour notre place dans la société, dans notre famille, vis-à-vis de nos proches. Je suis là où le Seigneur m'a placé. Et dans cette place, j'ai son œuvre à accomplir. Et puis, la foi de Marie est soulignée. Tu es heureuse, toi qui as cru, dit Élisabeth. Notre foi est aussi importante. Tout est possible parce que Marie a cru et elle invite chaque chrétien à imiter cette voie, à placer notre pleine confiance en Dieu. Et puis vous avez vu que entre la première annonce de l'ange et puis ce qu'elle va dire à Élisabeth, Marie a acquis, elle s'est documentée, elle a acquis des connaissances, elle a probablement lu l'Ancien Testament, ou alors elle le connaissait très bien avant. En tout cas, nous avons, nous, à mieux connaître notre Dieu, et pour cela, à étudier sa parole. Marie a appris par la lecture de la parole de Dieu qu'elle cite. Elle s'est enrichie par le témoignage des autres. Elle a réfléchi. La foi, c'est quelque chose qui se réfléchit. Pendant des siècles, on a divisé la foi qu'on croyait et la réflexion comme si c'était deux choses différentes. Mais pas du tout. La foi, elle est éclairée par ce que nous comprenons. Et ce que nous comprenons nous invite à croire, parce que nous pouvons comprendre des choses merveilleuses. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à comprendre, pour nous permettre de fonder notre foi, mais nous sommes appelés à méditer, à ruminer la parole de Dieu pour nous enrichir. J'ai déjà dit ici, mais je le répète, c'est une belle histoire, que dans une église précédente où j'étais quand j'étais jeune, j'avais un de mes frères aînés. Un jour, j'ai eu sa Bible dans la main, et dans la marge, il y avait marqué parfois APL. Et je lui ai dit, mais pourquoi il y a marqué APL dans ta Bible? C'est l'aide personnalisée au logement, c'est quoi? Et non, il m'a dit, c'est attendre plus de lumière. C'est les passages que je n'ai pas bien compris. Alors dans la Bible, j'ai mis APL. Mais tu remarqueras que je l'ai mis au crayon à papier. Parce que, de temps en temps, je peux en effacer un. Parce que j'ai eu le plus de lumière que ce que je voulais. Alors, je vous invite à mettre dans vos Bibles des APL et surtout à pouvoir les effacer de temps en temps. J'ai compris, Seigneur, quelque chose que je n'avais pas compris avant. On va passer vite sur le point suivant. Le chrétien doit accepter de pouvoir souffrir pour sa foi. Comme Marie qui savait les difficultés de ce qui l'attendait. Et c'est difficile pour moi de vous dire cela parce que je suis bien installé dans ma petite vie tranquille. et pourtant un chrétien doit accepter. Et autour de nous, il y a des gens qui souffrent pour leur foi. Il y en a qui souffrent loin, il y en a qui souffrent près, et nous devons aussi les soutenir par nos prières et par notre engagement. Et puis ils chantent, les chrétiens, comme Marie. Marie chante la gloire de Dieu et nous allons chanter la gloire du Seigneur. La louange, l'adoration, voilà la place du chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui adore son Seigneur et qui l'adorera éternellement. Et puis Jésus a grandi. Enfin, pas beaucoup. Pas beaucoup. Il a 40 jours. Lorsqu'il est présenté au temple, et là, Marie va faire une rencontre. Je vous propose de lire Luc 2, verset 25. Il y avait alors à Jérusalem un homme droit, un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simon les bénit et il dit à Marie, sa mère, « Sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » Ah, la chute. Pour Marie, les choses s'étaient pas trop mal déroulées jusqu'à maintenant. Bon, d'accord, elle avait dû accoucher dans une étable. C'est peut-être pas l'endroit idéal. Mais quand même, les choses allaient bien. Et encore Siméon qui lui dit que ce sauveur qui est là, ce bébé, il sera en faveur de tous les peuples, pas simplement le peuple d'Israël, tous les peuples. Et le père et la mère de Jésus sont émerveillés de ce qu'ils entendent. Encore une fois, ils ont été émerveillés de ce que les bergers leur avaient dit et ils sont encore émerveillés jusqu'à cette phrase finale. Toi, Marie, tu auras le cœur transpercé par une épée. Pour la première fois, elle entend une prophétie qui lui annonce qu'elle va souffrir. Et ensuite, nous pouvons suivre Marie dans les évangiles. D'abord, une Marie qui pousse Jésus à exercer ses pouvoirs, si on peut dire. Les noces de Cana, c'est Marie qui pousse. On a l'impression que Jésus freine un peu. Et puis ensuite, c'est elle qui va avoir peur et qui va essayer de le ramener à la maison parce qu'elle se rend bien compte que l'opposition grandit autour de lui. Et elle n'a pas tort d'avoir peur. Elle se fait du souci, Marie, pour son fils. Jusqu'au moment où elle va être au pied de la croix. Et là, Jésus va confier Marie à son disciple, Jean. L'épée annoncée par Siméon transperce son cœur de mère. Elle ne comprend pas, à ce moment-là, que Jésus meurt pour porter les péchés de l'humanité. Elle ne comprend pas qu'il est le Rédempteur du monde, celui qui rachète le monde entier. Pour finir avec Marie, nous la retrouvons dans le début du livre des Actes, au chapitre 1er, alors que Jésus est monté auprès de Dieu, l'ascension a eu lieu, alors que les disciples sont rassemblés et attendent la venue du Saint-Esprit, et Marie est là. On a Actes 1, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, et notamment avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Elle a enfin compris quelle était la mission de son fils.